le magazine des Nations Unies.
Bonjour, bienvenue et merci de votre fidélité à votre émission Magazine des Nations Unies, dont voici le sommaire pour ce dimanche. Ebola, rien que des cas d'alerte à Kinshasa et non des cas suspects. Affirmation du représentant de l'OMS en RDC mercredi, le docteur Alarangar Yukwide, a également fait l'état des lieux de la maladie dans l'Équateur jusqu'au 21 mai 2018. Vous suivrez également le représentant de l'UNICEF en RDC, le directeur des programmes Ouest de Oxfam, qui parle des contributions de leurs organisations respectives dans la mobilisation contre cette maladie. Les priorités stratégiques du mandat de la MONUSCO expliquées aux jeunes de Kinshasa, c'était mardi dernier, au cours d'une journée d'échange organisée par la division de la communication stratégique de la mission. Certains jeunes ont livré leurs impressions à l'issue de ces échanges. Les violations de droits de l'homme en hausse en avril par rapport au mois précédent, soit 493 contre 406 cas. Ce sont des statistiques livrées cette semaine par le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour. Aucun cas d'Ebola à Kinshasa, même des suspicions, rien que des cas d'alerte. Ces précisions ont été fournies par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en RDC. Face aux rumeurs qui ont couru dans la capitale, le docteur Alarangar a indiqué que le cas d'alerte de la maladie à virus Ebola à l'hôpital Mamayemo s'est révélé négatif. Les propos du représentant de l'OMS, qui a également établi la différence entre un cas d'alerte et un cas suspect, sont recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Il n'y a pas eu qu'un seul cas d'alerte à Kinshasa. Il y a déjà eu plusieurs cas d'alerte. Et les cas qui ont été investigués, heureusement, on est parvenu à établir qu'il ne s'agissait pas de cas de la maladie à virus Ebola. La différence entre un cas d'alerte et un cas suspect, c'est que quand quelqu'un a des maux de tête, quand quelqu'un a des maux de tête ou bien quand quelqu'un a une fatigue générale, dans le contexte de l'épidémie, on peut dire « Ah, cette personne-là a des maux de tête, cette personne-là a une fatigue générale, il se pourrait que ce soit la maladie à virus Ebola. » Donc, ça, c'est l'alerte et on est obligé donc de se rapprocher, de recueillir d'autres informations. Et ce sont ces autres informations-là, maintenant, qui pourraient permettre de dire s'il s'agit d'un cas suspect ou pas. Un cas suspect, c'est ce cas-là qui a, pas tous les signes, mais l'ensemble, la plupart des signes qui définissent le cas d'Ebola.
Par ailleurs, toujours selon l'OMS, au 21 mai dernier, la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur s'est présentée de la manière suivante. 58 cas notifiés dont 28 confirmés, 21 probables et 9 cas suspects. Nous y reviendrons. Autre actualité de la semaine, la résolution 2409, il en a été question mardi dernier entre la division de la communication stratégique de la MONUSCO et des jeunes de Kinshasa. C'était en fait une journée d'échange autour des priorités stratégiques de la mission telles que définies dans le nouveau mandat. Honoré Missinga Kalala a suivi pour nous ces échanges. Suivez son reportage.
Mardi 22 mai 2018, 200 jeunes de deux sexes venus de différents mouvements associatifs de Kinshasa prennent d'assaut de 9h la salle des conférences de la MONUSCO située dans la concession du Textrafica pour échanger sur les priorités stratégiques du mandat de la mission onusienne. C'est une initiative de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la mission dont le directeur Charles Bambara donne la quintessence.
C'est autour de ce document que représente donc cette résolution que vous allez échanger aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu mieux ce que dit cette résolution 2409 du Conseil de sécurité et quel est vraiment le mandat confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la MONUSCO par cette résolution-là. En réalité, la MONUSCO a une feuille de route.
Et concernant le mandat politique de cette feuille de route, Jean-Michel Dimon de la Division des Affaires Politiques énumère quelques-unes des missions de la MONUSCO contenues dans la résolution 2409.
Concernant l'exécution du mandat politique de la MONUSCO, le point essentiel est l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et au processus électoral. La MONUSCO fournira, et s'est engagée à fournir, une assistance technique et un soutien logistique dans le cadre du processus électoral. Il y a également, d'un point de vue politique, et c'est très important, les bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général. Également, ce qui est demandé à la MONUSCO, c'est une coordination entre l'ONU, l'Union africaine, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC.
Jean-Michel Dumont fait cependant cette mise au point.
La MONUSCO n'est pas destinée à rester en permanence au Congo. Donc il y a une stratégie de retrait qui est en place, à laquelle on réfléchit à New York et au sujet de laquelle il y a des échanges avec le gouvernement du pays. Il s'agit d'une stratégie de retrait échelonnée, progressive et exhaustive, en collaboration avec le gouvernement.
À la fin des échanges, certains jeunes expriment leurs impressions.
Je suis ravi par rapport aux différentes impressions que nous avions hier recueillies ici. En fait, avant de venir ici, on avait une autre idée par rapport aux missions de la MONUSCO. On a vite compris que la MONUSCO n'a pas un mandat exécutif. La MONUSCO a plutôt un mandat préventif.
Ce que j'ai aimé premièrement, c'est parce que la MONUSCO a quand même compris qu'il faut rentrer à la base. La base, c'est la jeunesse congolaise qui constitue les 90% de la population congolaise.
Merci beaucoup. En fait, c'est d'abord une très bonne conférence que nous avions avec les gens de la MONUSCO. Cependant, nous avons une impression telle que la MONUSCO est en train d'accompagner le gouvernement. Et c'est au gouvernement de faire preuve de bonne volonté pour amener à bien les choses.
Pour moi, j'ai plus retenu une chose que la MONUSCO ne peut substituer à l'État. Donc la grande responsabilité, la grande volonté est d'abord logée à notre État congolais, dans pas mal de domaines, que ce soit dans le domaine politique, tout comme dans le domaine de la sécurité, entre autres. Mais qu'à cela ne tienne, la MONUSCO, moi je proposerais que ça puisse être encore plus concret.
Les droits de l'homme, le rôle de la police de la MONUSCO et le genre ont également fait l'objet des discussions au cours de cette journée d'échange.
493 violations de droits de l'homme commises en avril contre 406 en mars 2018, une tendance à la hausse mise en évidence par le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdul Aziz Tioye, dans le rapport mensuel qu'il a présenté à partir de Goma. Un extrait de ce rapport recueilli par Honoré Missingakalala.
Ce qu'il faut retenir pour ce mois d'avril, c'est une augmentation générale du nombre de violations des droits de l'homme. En avril 2018, mon bureau a documenté 493 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, soit une augmentation de 21% par rapport au mois de mars 2018, où nous avions enregistré 406 violations. Cette hausse reflète essentiellement l'augmentation des atteintes commises par les combattants des groupes armés, un peu plus de 65%, et notamment l'activisme accru des combattants ADF, Nyatura et Maïmaï dans le Nord Kivu. Sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, les agents de l'État sont responsables de près de 59% des violations des droits de l'homme, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 24 personnes. Les groupes armés sont quant à eux responsables de 41% des violations, dont les exécutions sommaires d'au moins 51 personnes. Près de 80% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Toutefois, et pour la première fois depuis septembre 2017, ce ne sont plus les agents de l'État qui sont les principaux auteurs des violations dans ces provinces, je veux dire les provinces affectées par le conflit, mais les combattants des divers groupes armés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons encore sur l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, cette fois avec Oxfam. Cette ONG internationale est présente dans la lutte contre la maladie sur le terrain en apportant son expertise en eau, hygiène et assainissement, notamment par la construction des ouvrages et la sensibilisation communautaire. Raphaël Mbouy, directeur des programmes Oxfam pour les provinces Ouest, s'est confié au téléphone à partir de Mbandaka à Jean-Pierre et Lali Koko.
Raphaël Mbouy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On assiste ces derniers temps à une grande mobilisation des agents des Nations Unies et des ONG humanitaires dans la province de l'Équateur où sévit l'épidémie à virus Ebola. Quelle est, à ce stade, l'implication d'Oxfam dans la riposte?
Oxfam est impliqué dans cette riposte à trois niveaux. D'abord, c'est au niveau de la coordination nationale. Oxfam prend part comme membre actif à la sous-commission prévention. Au niveau provincial, Oxfam est membre actif aussi de la commission provinciale de coordination et au niveau de la commission prévention provinciale où Oxfam est co-lead facilitateur de la sous-commission, donc pour les orientations sur la réponse à l'épidémie d'Ebola dans la province.
Donc vous êtes vraiment impliqué dans cette lutte?
Effectivement, Oxfam est vraiment impliqué dans cette lutte sur le plan de coordination et sur le plan de mise en œuvre sur terrain.
Oxfam est depuis quelques années présent dans cette ville d'Mbandaka qui compte plus d'un million d'habitants. En ce qui concerne Ebola précisément, quelles sont les mesures spécifiques à apporter par votre organisation pour contenir la propagation de l'épidémie, et aussi vous pouvez parler de votre expérience en tant que ONG internationale sur le terrain.
Oxfam est dans cette province depuis 2005 dans l'axe Mbandaka Bikoro Ingende avec plusieurs projets. Donc nous sommes très concernés par cette épidémie qui nous frappe effectivement comme également victime, parce que au moment de l'épidémie, Oxfam était présente dans le village même d'Ikoro Ipengé, où nous sommes en train de construire un point d'eau et des toilettes dans l'école Epe Lokolo. Donc nous sommes très préoccupés par rapport à cela, et pour y faire face, Oxfam utilise donc son expertise en matière d'eau, hygiène et assainissement pour essayer de contenir la propagation de l'épidémie avec les activités de sensibilisation, la promotion de lavage de mains, l'assainissement, la désinfection des lieux publics, disons, des écoles et des ménages, des cas suspects ou des personnes vulnérables, et surtout la sensibilisation de masse pour vraiment que l'information préventive circule.
Oui, vous êtes dans la prévention et vous êtes également dans l'assainissement et de l'eau. Là, ça demande aussi des intrants. Est-ce que vous avez suffisamment d'intrants pour faire face à cette épidémie?
Les intrants arrivent progressivement. Pour le moment, nous avons une quantité qui nous permet effectivement de répondre aux besoins. Mais comme vous savez, l'expansion de nombre de contacts, de sites qui s'avèrent par des cas suspects. Aujourd'hui, on parlait encore des alertes à Ingende. Donc, nous pensons qu'il est important d'être en fait proactif en augmentant nos capacités en stock pour nous assurer qu'on soit en mesure de faire face à l'épidémie. Donc, c'est une situation dynamique et nous devons apporter des solutions dynamiques.
Les reproches qu'on fait souvent aux ONG dans ce genre de intervention et le manque de coordination. Comment vous, Oxfam, en tant qu'organisation, travaillez-vous avec les autres partenaires?
Comme j'ai dit, Oxfam est membre actif du comité provincial de coordination dans la section prévention. Cette section-là, Oxfam fait le lead avec l'UNICEF pour les partenaires techniques, et nous associons chaque fois dans une réunion journalière avec tous les partenaires humanitaires, internationaux et locaux impliqués dans la réponse dans le domaine de la prévention et dans l'eau, hygiène et assainissement. Nous avons produit une cartographie de tous les acteurs pour savoir qui fait quoi, où et qui apporte quoi. Cela nous permet effectivement d'être efficaces et complémentaires sur terrain et surtout d'éviter des duplications d'activités sur terrain.
Raphaël, les interventions d'Oxfam dans cette lutte sont estimées à 400 000 dollars américains. Croyez-vous que c'est vraiment suffisant pour faire face aux besoins sur le terrain? Comment comptez-vous alors mobiliser des ressources supplémentaires dans cette lutte?
Nous avons estimé pour le moment le budget de réponse dans les trois zones de santé où nous allons intervenir. Trois zones de santé de la ville de Mbandaka, trois zones de santé de Bikoro et d'Ingende, 1 500 000 dollars. Mais c'est une projection répartie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la réponse d'urgence. Donc, lorsqu'il y a urgence, Oxfam s'engage à sauver les vies. Ça, c'est la première phase. Nous sommes en train donc de travailler par rapport à cela. Et la deuxième phase, c'est d'accompagner les populations au relèvement précoce, c'est-à-dire immédiatement après le choléra. Et nous planifions cette phase pour 12 mois. C'est vrai que la mobilisation actuelle est de 400 000 dollars en fonds propres et d'Oxfam. Nous sommes en train de travailler également avec notre partenaire UNICEF sur un budget de 450 000 dollars aussi comme sa contribution dans le travail d'Oxfam sur terrain. Nous continuons les plaidoyers auprès de nos partenaires bailleurs de fonds au niveau pays et à l'extérieur qui font confiance au travail et à la capacité d'Oxfam à contribuer à l'effort collectif des humanitaires pour sauver les vies. Donc nous pensons qu'effectivement nous allons mobiliser ces fonds-là, mais nous projetons aussi qu'il faudra aller au-delà. Nous allons continuer avec cet effort parce qu'il faudra que nous arrivions effectivement à continuer les activités de transition après la crise, après la stabilisation de communautés, Nous devons continuer avec les activités de transition pour renforcer les communautés et minimiser les risques de résurgence de l'épidémie de l'Ebola dans la zone actuelle affectée.
Vous êtes sur le terrain à Mbandaka. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la victoire finale contre Ebola dans cette partie de la République démocratique du Congo?
Nous restons très confiants par rapport à cela pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est pas une première expérience en République démocratique du Congo et que le gouvernement congolais a une technicité en la matière importante qui permet effectivement de faire face à ces aspects de la crise. Deuxièmement, c'est avoir la mobilisation de la communauté humanitaire internationale, les capacités ou les ressources humaines, matérielles et financières qui sont en train d'être allouées pour contenir et étouffer cette crise épidémique actuelle nous rend confiants par rapport à la réussite et au succès des actions entreprises pour le moment sur le terrain.
Raphaël Mbouyi, Radio Capi, vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Le Royaume-Uni apporte un appui de 5 millions de livres sterling, annonce faite mercredi dernier par la ministre britannique de la coopération internationale, Penny Mordaunt. Cette aide du Royaume-Uni qui permettra à l'Organisation mondiale de la santé OMS de surveiller la propagation de la maladie, d'identifier et diagnostiquer les cas, d'assurer le suivi des personnes à risque d'infection, de soutenir la campagne de vaccination et de soigner les malades. Dans le même cadre, les États-Unis ont eux aussi annoncé mardi à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève le décaissement de 7 millions de dollars américains destinés à soutenir le plan de l'OMS de fournir un contrôle rapide et localisé de l'épidémie. Nouvelle de la MONUSCO, le nouveau commandant de la force de la mission, le général Elias, est arrivé en RDC il y a deux semaines en soutien aux forces armées congolaises et aux côtés des composantes civiles de la MONUSCO. Il va activement contribuer à la réalisation du mandat de protection des populations civiles et de neutralisation des groupes armés. Enfin, volet développement, coup d'envoi le 18 mai dernier des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Louetta. C'est dans le territoire de Luisa, près de 200 km au sud-ouest de Kananga. Ces travaux sont financés à hauteur de 65 800 dollars américains par la MONUSCO et le gouvernement provincial et sont exécutés par le Centre d'encadrement intégré de Loukibou.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous parlons encore et toujours d'Ebola, cette fois-ci avec le représentant de l'UNICEF en RDC. Le docteur Gianfranco Rotigliano a accompagné la semaine dernière à Mbandaké à Bikoro, le ministre de la Santé, dans le cadre de la mobilisation contre la maladie à virus Ebola. En marge de ce voyage, le docteur Gianfranco Rotigliano a fait le point sur les interventions de son agence dans cette mobilisation à travers cette interview qu'il a accordée à Jean-Pierre et Lali Coco.
Monsieur représentant de l'UNICEF, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF est un grand partenaire de la République démocratique du Congo. Vous avez été avec le ministre à Bikoro. Vous avez visité les sites, vous avez visité la population. Cette partie du pays est déclarée comme zone affectée par le virus Ebola. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la visite que vous avez effectuée avec le ministre sur le terrain?
En premier lieu, je veux dire que j'étais très content de pouvoir faire cette visite avec le ministre et les autorités provinciales de Mbandaka. C'est toujours important de voir les choses ensemble parce que la lutte qu'il faut mener contre cette maladie, c'est quelque chose qu'il faut faire tous ensemble. Ce que je peux dire, c'est que honnêtement, on vient de commencer, donc il y a tout à faire. Et le ministre a bien identifié les différents volets qu'il faut maintenant chercher de résoudre. Dans cette lutte, l'UNICEF se pose comme un partenaire du ministère et un partenaire des autres agences des Nations Unies.
Justement, vous êtes partenaire du ministère de la Santé et donc du gouvernement. Et il y a plusieurs volets, comme vous l'avez dit. Il y a le volet prévention, il y a la prise en charge et aussi, bien sûr, il y a la formation des professionnels de santé. Dans quelle volet l'UNICEF va vraiment intervenir?
Bon, le volet traditionnel de l'UNICEF, dans ce cas, c'est la mobilisation des communautés pour la lutte contre le virus Ebola. Il faut que les communautés soient conscientes, savent ce qu'il faut faire, puissent se battre, puissent accepter les faits, par exemple, que quand on a un décès, il ne faut pas toucher les corps des gens qui ont décédé. Il faut qu'ils acceptent le fait d'être contrôler chaque jour, tous les contacts, que les contacts soient contrôlés 3 fois par jour, la prise de température et qu'on pose des questions. Tout cela sert pour enrayer la maladie. Au-delà de ça, l'autre grand volet, c'est la fourniture d'intrants, beaucoup de matériel pour la protection personnelle, mais surtout en ce qui est le chlore, pour chloriner l'eau, pour que dans chaque institut public, dans chaque école, dans chaque centre de santé, il y ait un seau avec l'eau chlorée pour se laver les mains et pour se faire prendre la température.
À l'aéroport de Mbandaka, j'ai vu votre participation sur le plan équipement. Le ministre a remis symboliquement une des 6 motos qui sont un premier pas pour résoudre le problème des transports. Est-ce que l'UNICEF va continuer sur cette lancée?
Bon, les motos, c'était 6, mais il y en aura beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y en aura 50 qui vont venir bientôt. Le problème, c'est que pour amener les choses là-bas, bon, il faut les rotations de l'avion, les camions, c'est long. La logistique est compliquée, mais comme je l'ai dit, l'UNICEF participe à la logistique aussi, surtout dans certains volets. On va prendre en charge et donner ce qu'il faut pour que les agents sur place puissent faire leur travail correctement.
Le Congo a vécu beaucoup d'épisodes de cette maladie. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la lutte qui sera menée et on pourra arriver à éteindre ces fléaux?
Bon, qu'on y arrive, j'ai aucun doute. Maintenant, cette fois, il a l'air d'être un peu plus compliqué que les autres fois, car on a vu qu'il y a des endroits différents dans lesquels la maladie s'est manifestée. Donc cela implique évidemment qu'il y a des passages de mobilité de la population. Donc il faut faire avec. Mais c'est sûr qu'on va déployer tous les moyens nécessaires. On aura raison de cela aussi, hein. Mais il sera peut-être un peu plus compliqué que l'autre fois.
Et un mot sur la participation du gouvernement?
Bon, le gouvernement est en première ligne, c'est eux qui décident, hein. Nous, on les soutient. Le gouvernement met un budget, met les personnes, met la leadership et tout cela. Puis nous, on est des conseillers. Bon, nous, on a expérience. On était ici quand il y avait Ebola. Moi, personnellement, j'ai géré l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, on a expérience et on est là pour aider. À la base, c'est le gouvernement.
Monsieur le représentant de l'UNICEF, Radio Capi vous dit merci.
Et moi, je dis merci à Radio Capi.
Le parquet de grande instance d'Ouvira, doté d'un important lot de fournitures de bureaux, un don du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO remis officiellement le mercredi 23 mai 2018, c'est dans le cadre d'un appui au programme de lutte contre les violences sexuelles, un geste que le procureur de la République près de cette juridiction a salué, Monsieur Emmanuel Bokalolianja est au micro de Fiston Goma.
Il y a surtout des difficultés par rapport aux enquêtes. Hein. Il n'est pas toujours facile de retrouver les prévenus. Et les coutumes, parfois, pèsent sur la mentalité des victimes qui ont peur de dénoncer. Et voilà toute une série de problèmes que nous rencontrons. Les gens ont parfois peur de la répression. Et vous savez, même les victimes elles-mêmes proposent à la famille de la partie prévenue de trouver des solutions à l'amiable parce que ils ont intérêt à ce que leur fille puisse trouver un mari. De temps en temps, nous sensibilisons les OPJ. Nous faisons voir aux OPJ que les violences basées sur les gens sont des infractions graves, qu'on ne peut pas transiger là-dessus. La loi interdit, il n'y a pas de transaction par rapport à ça. On ne peut pas percevoir les amendes. Nous devons plutôt renforcer la répression pour essayer de juguler ces phénomènes. Nous essayons de sensibiliser les partenaires qui peuvent venir en appui. Et nous sommes contents que le bureau conjoint vienne de faire encore un geste pour nous appuyer. Nous savons que même dans l'avenir, d'autres partenaires nous appuieront. Mais si on n'a pas d'appui, on sera obligé de faire avec les moyens de bord.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et bien évidemment la réponse de ce dernier.
Elvis Katiana, je suis journaliste indépendant. J'adresse ma question à Monsieur Aziz, le responsable du bureau des droits de l'homme. J'aimerais savoir Après plusieurs années de travail, de monitoring sur la violation du droit de l'homme en RDC, alors sur base de votre expérience acquise, quelles sont les principales causes de violation du droit de l'homme et qui sont généralement les auteurs? Merci.
Disons l'impunité, le fait qu'il y a un conflit est un facteur explicatif et qui ne justifie pas qu'il y ait des violations des droits de l'homme. Le faible niveau de formation et de professionnalisation des forces de défense et de sécurité est un facteur aussi non négligeable. Donc, c'est pour ça qu'il est important de renforcer les capacités, de continuer à les former. C'est pour ça que les Nations Unies, dans les principes, suggèrent que les niveaux de recrutement respectent les standards pour ce qui arrive dans les forces de défense et de sécurité. Il est important que les personnes soient recrutées sur des critères professionnels et de mérite. Quand vous intégrez quelquefois des membres de groupes armés, ça pose problème. Il y a d'autres facteurs qui sont d'ordre structurel, qui relèvent d'éléments opérationnels. La façon dont les forces de sécurité et de défense sont déployées, ça pose aussi problème. Mais ça ne justifie pas. Je sais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. L'ampleur de la tâche, elle est énorme. Pour ce qui est des principaux auteurs, comme je l'ai dit, on a cette mois-ci eu une petite inversion de tendance, que c'est les groupes armés qui sont les principaux auteurs, même si les forces de défense et de sécurité restent dans des proportions extrêmement élevées, de l'ordre de 49 et de 51%. Vous voyez que c'est purement relatif. Et ce changement de tendance a eu lieu uniquement pour ce mois-ci. Donc c'est les forces de sécurité qui étaient les principaux auteurs. Et maintenant, de plus en plus, avec l'exacerbation de l'activisme des groupes armés, nous assistons de plus en plus à une montée en puissance des atteintes aux droits de l'homme attribuées aux groupes armés.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Bernardine Diambo Mwanda. Souvent, les collègues m'appellent Mama Diambo ou Mama Bernardine. Je suis mariée et mère de 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles et aussi 3 petits-fils. Vous comprenez que je suis une petite mamie, n'est-ce pas? Et je suis détentrice d'un diplôme d'État en section commerciale, mais avant, j'avais d'abord fait les études professionnelles en secrétariat où j'étais formée comme secrétaire de direction. J'ai également suivi des cours de comptabilité par correspondance. À cette époque, les cours nous parvenaient par la voie postale. Là, nous sommes à Mwanda, au Congo central. Voilà, à notre époque, lorsque vous finissez les études, directement on vous embauche dans une entreprise. Et donc, nous n'avons jamais connu le chômage. Comme j'avais fait mon stage professionnel dans une compagnie pétrolière Sosir, aujourd'hui Sosir, j'ai été engagé comme secrétaire dans une section commerciale dirigée par M. Kenda, qui nous a d'ailleurs quitté, paix à son âme. Après quelques années, j'ai quitté la Sosir pour Sinip, aujourd'hui DGM. Là, j'avais assumé le poste de secrétaire particulière de M. Cyril Nzumbuninguye, lui aussi nous a déjà quitté et paix aussi à son âme. Quelques années plus tard, en 1987, l'Office national du tourisme ONT est venu ouvrir ses portes à Mwanda. J'ai postulé et j'ai été retenu comme secrétaire de direction et comptable. En 1995, mon mari, qui travaille à la RVA jusqu'à aujourd'hui, était invité à Goma, au Nord Kivu. Et directement, moi aussi, ma direction générale de l'ONT à Kinshasa m'avait affecté à Goma. Comme l'oblige la loi congolaise, bien sûr, la femme doit suivre son mari partout où il va. Et comme l'Office national du tourisme existait à Goma, je n'avais pas eu de problème. À Goma, j'étais promis chef d'agence. Alors, comment je suis arrivé à la MONUSCO, notamment à la Radio Kapi? Vraiment, c'est une longue histoire. C'était lorsque mon agence a connu des problèmes avec l'arrivée de l'AFDEL, puis RCD. Et donc, comme l'ONT dépendait de Kinshasa, on était vraiment coupé de notre direction générale. Là, je devrais chercher ailleurs. À chaque fois que le bus de dispatch de la MONUSCO passait vers chez moi, moi je me disais, tiens, moi aussi je dois travailler à la MONUSCO. Et à l'ouverture de l'antenne de Radio Kapi Goma, là j'étais intéressé de faire le Kikongo. Mais comment y parvenir parce que je n'avais jamais fait le journalisme ou travaillé dans un média quelconque. Alors chaque matin, j'avais mon cahier et mon stylo. J'écrivais tous les mots difficiles et je m'exerçais en lisant à haute voix. Et souvent, c'était Jean Ngoma Koko qui présentait le journal à Kikongo. Chaque 8h et 19h, heure de l'Est, j'étais toujours branché pour suivre les Kikongo, voire même les Lingala. Et au mois de mai, je crois, on a lancé l'offre d'emploi à la Radio Kapi pour engager un traducteur en langue Kikongo et Lingala. Voilà, la chance m'a souri et j'étais retenue comme traductrice en Kikongo et Lingala depuis le mois d'août 2002. J'ai suivi plusieurs formations en journalisme avec les différents formateurs par le biais de la Fondation Hirondelle. Aussi, je me suis inscrit à l'université de Sepromad, Kinik Goma, pour faire la communication. Quelques années plus tard, je suis devenu journaliste et reporter Voilà, je m'intéresse à faire des magazines à caractère social. Là, vraiment, j'adore parler des faits sociaux et faire entendre la voix des femmes. Mon temps libre en tant que mère, je m'occupe du ménage, mais aussi je vais à l'église. J'aime écouter les chansons religieuses. Je suis Muyombe du Congo central. Là, c'est les Pondo Madeso et les Makayabo accompagnés de riz. C'est mon plat préféré. Après la MONUSCO, je crois, avec l'aide du Seigneur, je compte monter une entreprise familiale. Voilà tout.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux rendez-vous à retenir dans vos agendas le 28 mai. Remise du coffre-fort d'armes à la police nationale congolaise, PNC, par le service de lutte anti-mine, UNMAS, des Nations Unies. Et le 29 mai, journée internationale du casque bleu. C'est la fin de ce magazine. Bob Landwy était à la technique, Jean-Pierre Ilali Koko à la réalisation, au reportage et à la coordination, Honoré Missinga Kalala au reportage et Martin Seboujangou à la supervision. Moi, c'est Babel Pongoma Simango, je l'ai présenté. Excellente journée dominicale à vous tous.